Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Il y avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au 21e siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode particulier puisque c'est une des trois parties d'une série que je réalise dans mon interview de Pauline Bourgoin. Pauline Bourgoin est ce qu'on appelle un parent protecteur, plus précisément une mère protectrice, c'est-à-dire qu'elle prend sur elle le fait de protéger son enfant de violence en attendant que la justice fasse son travail. Et elle n'est pas la seule, il y a plusieurs parents protecteurs, surtout bien entendu des mères protectrices. Et c'est important, je pense, aussi de donner de la visibilité à ces récits. L'histoire de Pauline n'est pas facile. Voilà, l'histoire de Pauline est même très difficile. C'est pour ça que je vous invite, attention, si jamais des sujets que nous allons aborder comme les violences sexistes et sexuelles, l'inceste ou bien même les violences institutionnelles peuvent vous heurter, je vous invite à faire une écoute très au calme, à la faire dans un moment où vous vous sentez bien, ou tout simplement à la différer ou à ne pas la réaliser. Voilà, protégez-vous avant tout. Nous allons, au travers de mes questions, essayer de comprendre comment est-ce que les mécanismes d'emprise et de manipulation peuvent se mettre en place, comment est-ce que ces violences peuvent arriver sans que forcément on prenne la fuite tout de suite, sans comprendre qu'on est en danger, et comment est-ce qu'on peut continuer en fait de rester dans cette situation-là. Nous allons aussi bien sûr voir au travers de ces trois épisodes, comment on peut, mine de rien, réussir à s'en sortir, réussir à trouver des leviers à l'extérieur, en soi, pour réussir à s'en sortir, et aussi des nouvelles difficultés auxquelles il faudra faire face. Nous avons laissé dans cet épisode aussi des clés pour comprendre, des clés pour agir, des clés pour observer, des clés pour aider, et j'espère que cela aidera. Je dis un grand merci à Pauline pour son temps et sa confiance sur ce récit, qui est pour moi un récit très important, que je vais vous laisser découvrir tout de suite. Nous allons continuer et conclure cette série d'épisodes avec Pauline aujourd'hui, qui va nous partager son histoire bouleversante, celle donc d'une mère qui est plongée au cœur d'une bataille judiciaire pour protéger sa fille. Au fil de cette lutte, Pauline se heurte à la froideur d'un système où sa parole est mise en doute, où elle affronte des accusations injustes et subit les conséquences d'un rapport de l'aide sociale à l'enfance qui menace de séparer une mère de son enfant, alors qu'elle ne fait que la protéger. Confrontée à l'inimaginable, des actes d'inceste et de maltraitance envers sa fille par son propre père, Pauline témoigne du déchirement causé par des visites contraintes à ce père, des répercussions traumatisantes pour l'enfant et la méfiance des institutions. Malgré le rapport d'un expert psychiatre et des preuves accablantes, elle se trouve prise dans un tourbillon de décisions judiciaires complexes et d'actions de l'aide sociale à l'enfance qui semblent ignorer le danger immédiat pour son enfant. Nous allons engager le dialogue sur des questions importantes, en examinant la préparation mentale et émotionnelle face à de tels enjeux et les choix ardus d'une mère déterminée à sauvegarder le bien-être de son enfant à tout prix. Écoutons ensemble la fin de ce récit de Pauline, ses défis, sa résilience, son courage et son message pour d'autres parents dans des situations similaires. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et donc, arrive l'audience.
Arrive l'audience. Lui, à l'audience, il produit cette plainte qu'il a déposée. Alors, il y avait une main courante le vendredi et le dimanche, il a déposé une plainte pour disparition inquiétante de mineurs. Je me retrouve dans un dossier avec une photo de moi, une photo de ma fille, recherchée à l'international, alors que j'étais chez moi. Enfin, c'était pas chez moi. Je louais un Airbnb parce que je venais de perdre mon logement, parce que le père de ma fille avait intimidé mon garant et il lui avait dit « il faut pas l'aider, parce qu'on a une audience JAF bientôt ». Ça aussi, je le démontre. J'ai des échanges avec mon garant qui me dit « je peux plus t'aider, j'ai peur pour moi. Le père de ta fille m'a appelé, il est pas content. Donc je peux plus être ton garant. Il faut que tu te trouves un nouveau logement et un nouveau garant. » Le logement, pareil, le propriétaire, c'est un partenaire d'affaires à lui. Et il me dit « soudainement, c'est plus possible, je suis désolée, merci, au revoir. » C'est pas légal, hein, j'avais signé, enfin c'était, mais je me suis retrouvée sans logement à la dernière minute. Et pareil, ça a été utilisé contre moi, madame est SDF. Elle a fui des violences, soi-disant des violences conjugales, donc elle a quitté un premier logement, elle en a perdu un nouveau, elle est en Airbnb, elle a été accueillie chez des amis au début, vous voyez, elle est instable, elle est folle, elle est SDF. Ma fille est en danger. Moi, à ce moment-là, donc, j'ai aussi l'évaluation de la protection maternelle et infantile. Donc j'avais eu un rendez-vous d'une heure seule et j'ai eu un deuxième rendez-vous d'une heure en présence de ma fille. Le deuxième rendez-vous, elles ont un ton complètement différent avec moi. Ma fille est en train de jouer sur le côté. Et puis ça se passe très vite, il se passe pas grand-chose. Elles me disent déjà, elles me reprochent de pas remettre ma fille au père, etc. Alors qu'avant, elles me disaient de pas le faire. Et elles me disent, mais madame, on vous a jamais dit ça. Nous, c'est pas notre rôle. Enfin, elles ont fait volte-face. Elles sont revenues sur ce qu'elles avaient dit. Elles disaient, mais monsieur, il est en droit d'avoir son enfant. Voilà, elles avaient comme pris parti pour le père de ma fille. Et elles m'appellent pour m'annoncer qu'elles se demandent où ma fille est en sécurité et qu'elles vont demander un placement de ma fille en famille d'accueil. Donc à ce moment-là, je tombe des nues et je leur demande de m'expliquer en quoi je suis dangereuse. Elles me répondent « Mais madame, ce que vous comprenez pas, c'est que vous êtes trop à l'écoute de votre fille. Vous êtes trop bienveillante. Et l'extrême, c'est jamais bon. » Alors je leur demande de m'expliquer en quoi c'est mauvais. Et elles me donnent un exemple. Elles me disent « Quand vous êtes partie, lors du rendez-vous, votre fille ne vous a pas obéi quand vous lui avez demandé de mettre ses chaussures. » Et je leur dis, mais j'aurais dû faire quoi? Elle était en train de jouer dans la petite maisonnette ou la voiture, je sais plus. Elle était contente de jouer. Je vais pas l'attraper par les cheveux. Donc oui, elle m'a pas obéi tout de suite, mais elle a pas peur de moi, en fait. C'est plutôt bon signe. Enfin, j'ai pas eu la présence d'esprit de leur répondre ça. Mais je leur dis, mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place si elle écoute pas la première fois? Ben, elle m'apporte pas la solution. Elle me dit, non, mais elle aurait dû vous obéir. Je dis, je vais pas l'attraper par les cheveux. Mais vous vous rendez pas compte votre manière de réagir à vous? Ce que vous avez fait, le sentiment d'abandon que vous avez généré chez votre fille, elle m'accuse d'avoir généré un sentiment d'abandon chez ma fille parce que, au moment de partir, comme elle n'avait pas envie de partir, pour lui faire comprendre que c'était l'heure, il fallait y aller, je lui ai dit, mais maman, elle va aller au travail. Alors, tu viens avec moi? Et là, elle me dit, oui, elle ne veut pas rester sans moi, donc oui. Et elle vient, elle se précipite, elle met ses chaussures. Elle me dit, mais vous vous rendez compte, madame? Le sentiment d'abandon que vous avez généré chez votre fille, elle s'y est imaginée que vous alliez partir sans elle. J'ai dit, mais je n'ai pas passé le seuil de la porte, je ne suis pas partie sans elle. J'aurais dû faire quoi, l'attraper par les cheveux? Dites-moi. Elles n'ont pas su me dire ce qu'il fallait faire, mais en tout cas, elles m'ont dit que ce qu'il ne fallait pas faire.
Et puis, en toute transparence, tu vois, moi je parle beaucoup de parentalité bienveillante et tout, c'est pas non plus comme si tu lui avais dit, écoute, moi je vais travailler, toi t'as qu'à rester ici, tant pis pour toi, je te laisse. Tu vois, t'as juste expliqué les choses, t'as juste expliqué la conséquence. Écoute, moi je dois aller travailler. Donc dans tous les cas, il faut qu'on parte.
Et je lui dis, tu veux venir avec moi? Enfin, ce qui est peut-être pas correct, c'est de lui laisser le choix alors qu'en fait, elle l'a pas.
Oui, d'accord, mais...
Mais bon, ok, c'est pas parfait, je leur ai dit. Ok, je suis pas une maman parfaite. Enfin, en quoi il y a besoin de la placer? En quoi je suis dangereuse? Et elles me disent aussi que ma santé mentale pose question. Je leur ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce que je peux vous apporter pour vous prouver les choses? Elles me disent, non, mais rien, on a déjà fait notre opinion. On demande à ce qu'elle soit placée. On va passer devant un juge, etc.
Donc là, t'es après l'audience?
Ouais.
Ok.
Je suis 10 jours après l'audience.
Ok.
C'est rythmé, en fait.
10 jours après l'audience, donc ta fille a déjà eu son premier week-end chez son père.
Elle a eu 2 week-ends consécutifs.
Donc là, t'es entre les 2 week-ends, alors?
Je suis après le 2e week-end. Les 2 week-ends, je la récupère en petits morceaux. Vraiment. Elle pleure comme avant, mais pire encore, elle devient violente. Non, je crois qu'elle était déjà aussi un peu violente en rentrant chez son père avant. Il y avait déjà des épisodes. Mais là, c'est qu'elle me rejette et elle me dit « Je t'aime pas. Je t'aime pas, papa, il t'aime pas. » Et elle me frappe. Elle est transformée, hein. Elle est pas comme ça en temps normal. Et après, elle redevient elle-même. Ça prend quelques jours et après, elle devient la petite crème qu'elle est d'habitude. Mais au début, elle a une forte violence en elle, envers moi. Et puis à la crèche aussi, c'est plus compliqué pour les assistantes maternelles quand elle rentre de chez son père. Et moi, à ce moment-là, je demande au père à ce qu'on l'emmène voir un psychologue. C'est pas normal ce qu'elle a raconté. Elle est en souffrance. Il me dit, elle va très bien, il n'y a pas de problème, elle va pas voir un psy. Je lui demande plein de fois. J'insiste. Non, il n'y a rien à faire. Je finis par apprendre que j'ai le droit de l'emmener chez un psychologue pour faire une évaluation sans son accord. On a le droit à 4 ou 5 séances pour faire une évaluation par un psychologue sans l'accord du codétenteur de l'autorité parentale. Donc c'est ce que je vais faire, je cherche une psychologue spécialisée du psychotrauma chez les tout-petits. Et là, elle est bluffante, elle a un cabinet avec des animaux, plusieurs animaux, il y a un hamster, il y a un chien, il y a plein de jeux différents. Donc au début, il y a beaucoup de jeux avec les animaux, elle est énormément mise en confiance, tout est autour du jeu en fait. Et puis, autour du jeu, elle la pousse à parler, elle pose des questions, et s'il y a une bonne réponse, elle renvoie la balle, etc. Et elle en vient au sujet de la peur, et elle fait révéler plein de choses à ma fille. Alors que ma fille ne parlait même plus à moi. Elle s'était fermée, et là, elle lui parle, et puis ensuite, elle lui donne une poupée, elle joue à la poupée. Elle lui demande de montrer comment maman joue à la poupée, enfin, comment maman fait avec elle, avec la poupée, et comment papa fait. Et quand c'est papa, elle fait des bisous sur la bouche, et elle mime les agressions sexuelles. Ça, c'était au mois de mai, il s'était écoulé du temps. Sur la demande de placement, j'étais inquiète au début, et puis on m'avait dit, non, mais jamais personne ne place un enfant pour un parent trop bienveillant, ça n'existe pas.
Oui.
Sois rassurée.
Il y a quelques légendes urbaines qui traînent, mais... Non, par contre, et je ne sais pas si ça a été ton cas, mais il y a d'autres cas de mères protectrices qui se sont retrouvées dans les arguments de la partie adverse, le fait d'allaiter l'enfant ou de faire le cododo, par exemple.
Alors, le père, c'est ce qu'il a essayé de faire. Et il s'en est servi plus tard en expertise. Même en audience, il disait que j'étais dans la fusion et il démontrait ça par le fait que je l'ai allaité, mais bon, j'ai juste respecté les préconisations de l'OMS à tous les niveaux. J'ai pas dépassé, donc. Mais ça a servi, en effet. Ça a été compris.
Voilà, tu vois. Donc la SE fera rien, mais c'est des récits qu'on avait. Donc du coup, pas de placement. Le placement, t'inquiète pas.
Donc on me dit, t'inquiète pas pour le placement, ça n'arrivera pas. Et je trouve cette psychologue qui, d'un coup, transforme tout, en fait. Ma fille, à ce moment-là, elle était dans le plus grand des désarrois, elle rentrait en piteux état, elle régressait, elle se changeait toute seule, elle était quasiment propre, elle faisait plus dans sa couche, elle faisait sur les toilettes, elle portait même plus de couche en journée, en fait. Avec moi, à la crèche, elle la mettait, mais elle avait même presque plus besoin, en fait, elle se faisait plus dessus. Depuis ce retour du week-end du mois de janvier, elle se faisait tout le temps dessus, et elle hurlait, elle pleurait. Pour pas qu'on la change. Un moment, ça allait mieux quand elle le voyait plus, et ça a repris quand elle a fait les deux week-ends consécutifs, c'était catastrophique. Elle s'est mise à bégayer, à avoir peur du noir, à avoir peur même de marcher seule. Elle a besoin de tenir la main de quelqu'un. Enfin, c'était super inquiétant ce qui se passait. Et donc, on ressort de cette consultation, c'était le 17 mai 2022. Ma fille est transformée. Elle chantonne, elle est bien. Je me souviens de la consultation, elle lui avait expliqué que ça, ce qu'elle avait vécu, c'était pas normal, qu'elle avait rien fait de mal, qu'elle était, que c'était quelqu'un de très bien, que c'était pas de sa faute, que c'était les grandes personnes qui devaient assurer sa protection et avoir les bons gestes. Et en plus, elle lui avait appris à s'affirmer en disant, bah voilà, maintenant, quand il y a quelqu'un qui te fait quelque chose que tu veux pas, elle montrait, tu pousses et tu cries. Et donc, elle avait fait travailler l'affirmation, la confiance, et c'était fantastique. En plus de la faire parler, elle a reboosté. Elle est sortie de là. Génial, le soir, elle a réussi à se rendormir. Parce que oui, elle faisait pipi au lit, elle avait des cauchemars la nuit. Il y avait beaucoup de symptômes très, très inquiétants qui s'atténuaient énormément à ce moment-là. Il y a eu une deuxième consultation 2 jours plus tard. Et je me souviens de la réaction d'une des assistantes maternelles qui voyait ma fille se déplacer, faire le tour. C'est dans une maison d'assistante maternelle, faire le tour pour aller cueillir des fruits toute seule. On s'est regardé, on était bluffés parce que ça faisait 2 mois qu'elle n'arrivait pas à faire un pas, à s'éloigner de moi d'un pas sans hurler, sans pleurer. C'était devenu très difficile. Ou elle angoissait, elle se mettait à trembler. Et là, d'elle-même, elle se met à marcher, à faire le tour, à aller cueillir de fruits, et elle revient nous voir avec un sourire. On s'est regardé, on était bouche bée. Donc, et moi, à ce moment-là, je me suis sentie mais sécurisée en me disant, bah, ça y est, l'enfer est terminé. La psychologue me dit, vous remettez pas l'enfant au père, je fais un signalement. Et quelques jours après, il y a l'audience devant le juge des enfants. Je vais me retrouver protégée. Ma fille va se retrouver protégée, donc par ricochet, moi aussi.
Ça, c'est l'audience qui fait suite à la plainte.
Qui fait suite à la demande de l'aide sociale à l'enfance d'avoir une audience. Moi, j'en avais demandé une au tout début. J'avais dénoncé ça et j'avais demandé des mesures de protection pour ma fille. Je l'avais fait toute seule, en fait, au moment où je n'avais pas d'avocat. Et le père a aussi demandé une audience. Et donc, bah, je vais à cette audience confiante. J'ai une nouvelle avocate, enfin une avocate à ce moment-là, que je ne garderai pas. L'audience passe en un éclair. Je n'ai pas le droit de parler. On me pose 2-3 questions au début. On me dit, madame, vous êtes très intelligente. Il y a des choses comme ça. En fait, je suis suspectée. On me demande ce que j'ai fait comme études, etc. Et là, je découvre la version de l'aide sociale à l'enfance. Donc moi, ils m'annoncent trop bienveillante, ils se posent des questions sur ma santé mentale, parce qu'ils m'ont vue en état de choc post-traumatique, en fait. Et c'est tout. Et en fait, dans le rapport, il y a plein d'autres choses où je suis faite passer pour une manipulatrice, parle de conflit parental, les deux parents essaient voilà, de manipuler l'enfant. Ils mettent aussi le père avec. Ils montent pas trop, mais quand même, c'est très à charge, très très à charge contre moi. Et même à l'audience, ils me disent « moi dangereuse ». Ça tombe comme ça tout seul. La juge ordonne le placement. Je me souviens du regard du père. Il se lève avec un grand sourire et il part. Moi, je m'effondre. Bah ouais, mais il a plus le droit de voir sa fille, lui, non plus.
Ouais, mais il s'en fout, ce qu'il veut, c'est de faire du mal.
Voilà, mais il a doublement gagné, parce que ce qu'il souhaite, c'est pas s'en occuper.
Et il a peut-être le sentiment qu'il n'est pas inquiété, du coup, par rapport aux agressions sexuelles.
Ah, mais il n'était vraiment pas inquiété. Suite à ça, donc le rapport de l'aide sociale à l'enfance transmis à la police, sur la base du rapport, disent « relations conflictuelles », le père n'avoue pas, il classe, l'enquêteur dira à mon avocate « bah c'est compliqué, on n'a pas d'aveu du père ». Puis ils sont deux, ils sont le père et le beau-père à dire « c'est la mère qui est dans la vengeance ». À ce moment-là, l'ex-beau-père de ma fille n'avait pas encore été condamné pour ses violences, donc j'étais une affabulatrice à ce moment-là. Donc, la plainte se retrouve classée et je me retrouve face à l'aide sociale à l'enfance d'Orléans, du Loiret, qui a un prisme du début, qui ne veut pas en changer. Donc, c'est moi qu'il faut faire taire, c'est moi la folle. J'ai dénoncé ce rapport dans lequel il y a plein d'éléments faux contre moi. En fait, elles se sont faites une idée. Et pour coller à cette idée, elles n'ont pas hésité à réinventer ma vie. Je l'ai dénoncé quand j'ai décidé de médiatiser. En fait, ce qui s'est passé, c'est que suite au placement, en fait, moi, j'avais l'impression de vivre un cauchemar. Le lendemain, je me suis dit, mais je vais me réveiller de ce cauchemar. Ça avait été d'un niveau de traumatisme inouï le jour du placement. Parce que moi, je sors de l'audience très péniblement, je me rends chez moi pour faire les affaires de ma fille. Et j'appelle l'éducatrice pour lui demander comment se passe la remise, les au revoir. Elle me dit, ça se passe pas, elle est avec nous. Et en fait, ils sont allés l'enlever la crèche à 2 ans et demi, sans me prévenir, sans la prévenir, elle ne savait pas. Elle s'est fait enlever par 3 inconnus. Et là, je lui demande, comment est-ce que je lui remets ses affaires et son doudou? Elle me dit, non, mais vous inquiétez pas, on a des affaires et puis on a pris une peluche de la crèche. Donc, je me mets à les supplier, mais rien n'y fait. Le dimanche qui suit, c'est la fête des mères. J'ai même pas le droit de savoir où elle est, avec qui. Normalement, il y a que pour les enfants placés sous le secret qu'il n'y a pas d'information, mais j'ai rien eu le droit de savoir.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Et puis j'ai commencé à l'avoir près de 2 semaines après. J'avais le droit de l'avoir 1 heure toutes les 2 semaines, comme une criminelle. Et donc, quand je fais face à cette réalité, je me dis, non, c'est pas un cauchemar. Je cherche des informations. Dans les médias, il n'y a rien. Je cherche sur les réseaux sociaux, il y a des forums, il y a des parents, des enfantés qui parlent de ça. Je me crée un nouveau compte sur les réseaux nommé Pauline Bourgoin. Je prends le nom tout à fait par hasard, juste pour créer un compte pour échapper à la surveillance du père de ma fille, parce qu'il y avait un harcèlement sur les réseaux. Et là, je découvre l'hécatombe. Je me rends compte qu'il y a des dizaines et des dizaines. À ce moment-là, je croyais que c'était des dizaines, mais en fait, c'est des centaines plus tard, et peut-être même des milliers, parce que tout le monde n'en parle pas publiquement. Mais on est de très, très nombreuses mères dans cette situation-là. Il y a quelques pères aussi, mais c'est très majoritairement des mères. Et je parle avec elles et elles me disent surtout, faut être sage, faut obéir pour avoir de bons rapports, pour espérer retrouver l'enfant. Mais je vois que il y en a beaucoup qui font ça. Enfin, toutes celles à qui je parle s'exécutent et ça fait des années qu'elles n'ont pas vu leur enfant. Souvent même, l'enfant part après vivre chez l'agresseur dénoncé. Moi, je me dis, je veux pas arriver là, c'est pas possible. Et puis, c'est beaucoup trop injuste, en fait. C'est une injustice beaucoup trop grave pour qu'on la laisse passer. Donc, je décide de la porter au grand public à ce moment-là. Et j'en parle. Et donc, il y a l'aide sociale à l'enfance qui aime pas du tout le fait que je dénonce le faux rapport contre moi. Donc, j'ai une plainte de l'éducatrice contre moi. Il y a des représailles. Quand je parle, je dis des choses dans la presse. Derrière, on m'enlève des visites. Enfin, voilà. Il y a une espèce d'acharnement contre moi.
Et
là, on va... Ouais, je suis punie et ça va très très loin. Dans les rapports, ils n'hésitent pas à en rajouter des couches en se disant on va créer cette réalité où le placement il est justifié et cette mère-là est dangereuse. Donc pour justifier le danger, Ils sont même allés jusqu'à essayer d'inverser les accusations de violence sexuelle. Elle essaie de me faire accuser d'inceste. Comment est-ce qu'elle s'y prend ? Elle se dit très très inquiète du climat dans lequel vit ma fille avec moi, qu'elle grandit puisqu'elle est placée en famille d'accueil. Puisque à chaque visite, la mère ramène des fruits frais, entre parenthèses, framboises, myrtilles, trois petits points, donc des fruits aphrodisiaques. Elles prennent l'exemple d'une fois, c'est bien écrit hein, que c'est une fois, mais j'étais en train de faire de la pâte à modeler et ma fille me tend une framboise et je lui fais signe de me le mettre directement dans la bouche. Elle me pose la framboise, là, je la prends, je la mange. Donc ça, c'est raconté dans les éléments très inquiétants. C'est en plus dans la conclusion, donc c'est vraiment l'essence du rapport. Et il y a aussi, madame a fait à deux reprises du dada à sa fille. Et nous questionnons beaucoup ce rapport à sa fille mimant l'acte sexuel. Et donc, il se pose même la question de maintenir tout lien avec ma fille dans ce rapport. Fort heureusement, ils sont allés tellement loin que ça n'a pas été suivi des faits. C'est même le président de la cour d'appel était choqué par ce rapport en disant « mais c'est normal que... » Parce qu'on me reproche aussi de ne pas avoir confiance en l'aide sociale à l'enfance.
Bah là du coup...
J'ai dit bah c'est un petit peu normal en fait.
Il y a deux, trois raisons quand même.
Quand on voit l'acharnement en fait contre moi, le rapport il est complètement à charge contre moi et le père de ma fille il est encensé, il fait une tresse à une poupée, il s'intéresse à sa fille et tout est parfait. À ce moment-là on est en cour d'appel, la cour d'appel ne lève pas le placement mais me donne des droits libres un week-end sur deux. Et j'ai le droit de l'avoir aussi toutes les semaines pendant 2 heures en plus, alors que le père, lui, il a une visite médiatisée d'une heure toutes les 2 semaines. Donc on commence à aller dans la bonne direction, même si c'est pas encore satisfaisant. On a une période d'accalmie qui est la cour d'appel, c'était en septembre, et le jugement de fin de mesure, c'était fin novembre. Application au 1er décembre, donc de fin septembre à début décembre, il y a un moment où je m'occupe de ma fille un week-end sur deux, seule, sans surveillance, on peut renouer des liens, de l'intimité, et en plus je la vois toutes les semaines pendant 2 heures, donc on recrée un contact important, et son père n'accède pas à elle, il a 1 heure toutes les 2 semaines sous surveillance, donc il ne peut pas lui faire grand-chose. Donc ce moment-là, il est toujours douloureux, difficile, mais ma fille tient le coup. Ensuite, on a l'audience finale, c'était un placement de 6 mois. C'est toujours des placements ordonnés pour 6 à 18 mois et après, souvent, c'est renouvelé. Donc là, on est en fin de mesure. La juge avait ordonné une mesure d'investigation judiciaire éducative. Donc c'est une sorte d'enquête réalisée par psychologue, éducateur, etc., une équipe spécialisée là-dedans, qui enquête pendant 6 mois. Il y a des rendez-vous réguliers avec les parents, l'enfant, l'enfant seul, l'enfant avec chacun des parents, la famille d'accueil, etc. C'est assez poussé. C'est ce rapport-là qui me permettra de récupérer ma fille, qui nous sauve. Le rapport est assez édifiant. Il fait part de la dangerosité paternelle, du risque de passage à l'acte, demande des visites sous surveillance pour le père et que moi, je récupère ma fille à domicile. Mais la juge n'a pas ordonné que ce rapport-là. Elle a aussi ordonné un rapport de l'expert psychiatre, le docteur Roland Coutenceau. À ce moment-là, le docteur Roland Coutenceau est à son apogée. En fait, ça fait très longtemps qu'il exerce et qu'il est très reconnu. Il est à la tête de la Ligue de la Santé Mentale Française, ou je ne sais plus comment ça se dit, quelque chose de ce type-là.
La Ligue Française pour la Santé Mentale, depuis l'année 2000.
Très, très reconnu, très médiatisé. Et il nous fait une expertise. Enfin, il nous voit quelques minutes chacun, moi puis le père. Il ne voit pas notre fille. Il refuse de voir le dossier, je lui propose des pièces et tout. Non, c'est bon, voir ça me suffit. Et il conclut, le père n'est probablement pas dangereux, il peut voir de nouveau sa fille, et de toute manière, il ne devrait pas recommencer, puisqu'il a été dénoncé. Et il dit, en revanche, ce qui pose problème, c'est si la mère s'entête à vouloir la protection de son enfant. Donc le problème est retourné vers moi. Et du coup, la juge, la même juge qui avait placé notre fille, décide de me rendre ma fille. Enfin, elle ordonne toujours un placement à la ZE, mais organisé à mon domicile. Donc, je suis toujours sous l'autorité de l'aide sociale enfance. Je dois encore rendre des comptes. Je ne suis pas libre.
Je voulais juste te dire que depuis, hein, le docteur Coutenceau est sous le coup de plusieurs plaintes dans des affaires de violence intrafamiliale, notamment pour des manquements à la déontologie qui auraient entraîné une mise en danger des enfants. Voilà, donc ça c'est important de le savoir, c'est que ce monsieur est pas clean, donc voilà, c'est important de le savoir.
Il y a aussi une nouvelle qui vient de tomber récemment le concernant, c'est l'ordre des médecins qui le poursuit, qui s'est joint à une plainte, donc c'est quand même un acte fort. Et donc, lors de l'audience de fin de mesure, la juge décide, dans le cadre de la fin de la mesure, de renouveler le placement à l'aide sociale à l'enfance, mais organisé à mon domicile, et donne au père des droits libres, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires. Et on me reproche d'avoir médiatisé. Ça m'est beaucoup reproché. Je me retrouve encore sous la toute-puissance de l'aide sociale à l'enfance, j'ai l'impression, parce qu'il est aussi dit que, certes, je récupère ma fille, mais ça se fera quand l'aide sociale à l'enfance sera prête pour le faire. Il faut laisser s'organiser. Et là, l'aide sociale à l'enfance m'annonce un délai minimal de 5 mois. Donc j'ai un jugement qui annonce le retour de ma fille, mais en fait non. Il y a une décision de retour à mon domicile, mais c'est encore organisé par l'aide sociale à l'enfance et il a fallu faire des pieds et des mains pour réussir à la récupérer. Elle est rentrée au mois de janvier. Ensuite, pendant un mois, elle était encore placée et on avait son père et moi des droits libres un week-end sur deux, la moitié des vacances.
Finalement, les 5 mois ont pu être réduits à un mois, c'est ça? Donc là, on est en janvier 2023.
Oui, ça a été réduit à un mois. Au mois de décembre, je commence à voir l'état de ma fille se dégrader. Quand je la récupère, là, elle hurle. Je me souviens, elle avait fait une scène devant l'école. Elle hurlait, elle se débattait, elle pleurait. Elle n'était pas bien du tout. En fait, quand elle me retrouvait, elle explosait tout. Tout, tout.
Ce qui est tout à fait normal dans une relation d'attachement sain, je le précise.
Oui, bah oui, mais effectivement, l'aide sociale à l'enfance pouvait me reprocher le comportement de ma fille en disant que bah, le problème était chez moi, puisque ma fille, elle était pas bien avec moi. Partout, hein. C'est l'enfant est pas bien quand elle est avec sa mère. Bah, en fait, elle évacue toute sa souffrance avec moi. Et donc, là, je commence à voir l'état de ma fille se dégrader. Et au retour des vacances de Noël, c'était horrible. Elle se frappait, elle me frappait, elle hurlait que j'étais méchante, folle et une menteuse. Je me demande où elle a appris tous ces mots. Elle pleurait, mais des heures. Et le week-end qui a suivi, elle me dit « j'ai mal, elle se tortille de douleur, elle a mal aux parties génitales ». Sauf que comme moi, je l'avais déjà emmenée consulter une psychologue, etc., et que j'ai été accusée de la surmédicaliser, de faire n'importe quoi, j'ai peur. Donc j'appelle la mesure en cours, puisque je suis sous la tutelle de l'aide sociale à l'enfance, pour savoir quoi faire. J'ai ma fille qui pleure à côté de moi parce qu'elle a mal. Elles me disent de l'emmener aux urgences. Donc, aux urgences, les irritations vulvaires sont constatées. On me donne Doliprane, crème réparatrice, et puis ça s'arrête là. Et puis, ma fille me raconte des choses horribles. En fait, le week-end après, sa parole se libère de nouveau. Elle me raconte ce qu'elle lui fait. Le service social qui suit la mesure ne veut pas nous croire. Et ils font des rapports en disant que je suis un élément de danger pour ma fille parce que je crois tout ce qu'elle dit et qu'en étant convaincue de sa position de victime de son père, ma fille se positionne en victime et a les symptômes du coup. Et pourquoi est-ce qu'elle a les parties génitales irritées quand elle rentre de chez son père? Parce qu'elle se masturbe. C'est sa faute à elle. Plus récemment, on a réussi à me dire que j'aurais dit, mais pourquoi c'est que quand elle rentre de chez son père qu'elle est irritée? On me dit, oui, mais c'est parce qu'elle fantasme sur son père. Donc c'est quand elle le voit qu'elle a envie de se masturber. Et donc, j'ai ma fille qui me raconte encore, qui quand elle rentre de week-end, elle explose sur moi. Elle me dit, mais maman, mais pourquoi tu me forces? Pourquoi tu me forces à y aller? Pourquoi tu me protèges pas? Pourquoi tu lui as pas dit à mon père d'arrêter? Elle me dit pas à mon père, elle me dit à papa. Et moi, là, je fais une demande à la juge. Je peux pas remettre ma fille à son père. Là, je vous demande une audience rapidement pour qu'on puisse mettre en place des visites médiatisées. On me dit, vous remettez l'enfant au père ce week-end, sinon il y a un placement. Je supplie aussi, depuis très longtemps, pour avoir un suivi psychologique pour ma fille. On me dit, madame, si vous ne respectez pas l'autorité parentale du père, elle sera à nouveau placée, en quelque sorte. Et le père, lui, s'oppose à toutes les demandes de suivi. Donc, là, ça fait bientôt 2 ans qu'elle a dénoncé, elle n'a toujours pas de suivi en place. Même les dernières demandes, c'est même plus moi qui les formule, c'est le service social. Depuis que j'ai déménagé, je suis dans une nouvelle région où c'est pas du tout le même service social et pas du tout les mêmes procédés. Et là, le nouveau service social, qui prend pas parti en fait, qui est neutre, qui voit que l'enfant a besoin d'un suivi, demande au père un suivi. Ils ont proposé un centre sur Paris et le père a dit, il a même fait un mail et il a dit, non, je vais aller me renseigner sur ce centre. Il a écrit qu'ils sont formés aux violences sexuelles. Je ne veux pas quelqu'un de formé.
Attends, il a écrit ça et ça alerte personne.
Et il produit lui-même le mail à la juge en disant, voilà, ma fille n'a pas subi de violences sexuelles. Je vois pas pourquoi la personne serait formée.
Et la juge, elle peut rien faire.
Et pour le moment, ma fille n'est toujours pas protégée de son père.
Là, on est quoi ? On est fin du premier trimestre 2023 ? Quand ça commence, tout ça ?
Dès le début janvier, hein, ça commence. Le 16 janvier, quand elle rentre chez son père, on va aux urgences pour ses irritations des parties génitales.
Et du coup, depuis, est-ce qu'elle est retournée chez son père ?
Elle y est retournée chaque week-end et pendant les vacances scolaires jusque fin juin. Quand tout se passait à Orléans, j'étais menacée d'un nouveau placement si jamais je la remettais pas. Au mois d'avril, j'ai organisé un déménagement, un retour en région parisienne, là d'où je suis originaire. Et à la base, je comptais attendre l'été pour le faire, mais ma fille souffrait beaucoup là-bas. Elle me demandait à partir de son école où elle se sentait pas bien du tout. Je vivais dans la peur aussi d'être pas loin du père. Et du coup, tout ça a fait accélérer le déménagement et j'ai demandé à la juge une audience pour acter mon déménagement, la fin de la mesure dans la région, etc. Puis j'ai demandé la levée du placement parce que ma fille est sous la tutelle de l'ASE comme si j'étais un parent dangereux. J'ai obtenu à ce moment-là de faire lever le placement et de rentrer dans ma région. Et suite à ça, j'ai de nouveau demandé et c'est là qu'on m'a dit « Mais non, si vous ne la remettez pas, elle sera placée. » Et du coup, j'ai continué de m'exécuter une fois rentrée ici. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 18 juin, elle est rentrée encore dans un état déplorable, avec beaucoup de violence et encore des parties irritées à me raconter ce qu'il lui fait. Il y a de la violence sexuelle, mais il y a aussi physique et psychologique. Elle souffre de tout. Et elle me reproche de l'envoyer. Moi, je lui explique que j'ai pas le choix, que si je la fais pas partir chez son père, on va la reprendre et la remettre en famille d'accueil, ce qu'elle ne veut pas. Je dis « la juge, elle décidera ça ». Elle me dit « mais on le dit pas à la juge ». Je me retrouve obligée de dire « oui, mais ton papa, il va le voir que t'es pas venue, il le dira ». Non, parce que dans les rapports, ça se retrouve transformé. Enfin, elle rapporte les paroles, enfin, il pose des questions à ma fille, et ma fille, quand ils disent « qu'est-ce qui se passe pour toi ? Qu'est-ce que tu comprends de la situation ?»« papa, il appelle le juge et du coup, c'est tourné comme… » En fait, ils prennent pas la hauteur de dire « on parle à une enfant de 3 ans ». Et donc, c'est, vous voyez, l'enfant dit que son père va appeler le juge. Qu'est-ce que lui raconte la mère ? J'ai juste répondu à sa question, en fait. Je lui ai jamais dit que c'est le père de ma fille c'est son propre père qui a demandé le placement. Elle sait pas tout ça. Tout ce qui se passe, je la préserve au maximum. Mais c'est pour expliquer comment, à partir d'éléments concrets, ça peut être retourné et utilisé à charge contre le parent protecteur.
Comment est-ce que la parole de l'enfant n'est absolument pas reçue, en fait ? On ne reçoit la parole de l'enfant que pour se dire que comme si l'enfant n'était qu'un objet manipulé par des adultes. Et ça, c'est un vrai problème en France.
Oui, oui, ils n'ont pas cherché à interpréter, à comprendre, à creuser. Ils ont juste reçu ça, et puis ils ont fait leur propre interprétation, celle qui colle avec l'image qu'ils ont faite depuis le début. Et donc, le week-end qui suit, le 29 juin, je suis supposée la remettre à son père. Et la veille, au matin, on est dans l'entrée chez moi, prête à partir à l'école, et je lui dis « ce soir, c'est moi qui viens te chercher, mais demain, ce sera papa ». Je la préviens un jour à l'avance pour qu'elle s'y prépare, parce que c'est toujours des moments difficiles. Et là, à chaque fois, elle réagit mal, mais là, plus que d'habitude, là, elle surine dessus, immédiatement, dans l'entrée, elle hurle, elle pleure, elle me supplie. J'ai encore ces cris en tête, mais non, papa, me force pas. Tout le trajet de la voiture, je lui ai donné une douche, je l'ai changé, etc. On s'est dépêché, on y allait en courant. On est en retard, on va dans le bureau de la directrice et il y a Eva qui pleure dans le bureau de la directrice et dit papa. Elle reste bloquée, en fait. Et là, je me dis, c'est pas possible. Je peux pas la. Là, c'est sciemment la violente que de l'emmener, je peux pas. Je sais pas ce que je préfère entre avoir la garde et l'envoyer se faire violenter et qu'elle soit placée en famille d'accueil et que je la vois plus. Il y a rien qui va, en fait. Donc c'est là que je prends mon courage à deux mains et je la présente plus. J'informe le père. À partir de là, je m'oppose. On passe l'été comme ça. Toutes les deux semaines, j'ai un petit peu peur. J'annonce. Enfin voilà, je me retrouve dans cette démarche. Au début, j'avais très très peur. En plus, le père m'envoie m'envoie pas mal de messages. Il me dit que je vais finir en prison. Il m'envoie des articles sur d'autres mères qui sont en prison parce qu'elles ont protégé leur enfant, des choses comme ça. Donc, j'ai fait ça un peu avec la peur au ventre. Mais très vite, j'ai senti le bénéfice de faire ça parce que ma fille s'est transformée pendant l'été. Mais transformée. C'est fini les pipis au lit. Il n'y en a plus. Plus de cauchemars. Tout se transforme. Progressivement, ça s'est fait et de mieux en mieux. Mais c'était pas parfait parce qu'elle avait encore des appels avec son père qui étaient organisés par le service social. Et à chaque fois, la veille de l'appel, il y avait des cauchemars, le loup qui venait la hanter dans la nuit, pipi au lit, et pareil les jours qui suivaient. Donc toutes les deux semaines, il y avait encore cet effet-là, mais moindre par rapport à quand elle le voyait. Et là, depuis, je crois que le dernier appel, c'était le 13 octobre, et depuis, le service social a pris la décision d'arrêter les appels parce que il est arrivé un moment où ma fille s'est sentie suffisamment à l'aise pour montrer plus de choses au nouveau service social qui se comporte complètement différemment. C'est la première fois qu'un service social voit ma fille. Avant, c'était moi qu'on voyait et le père et ma fille n'étaient pas vus. Il n'y avait pas de rendez-vous individuel. Sur toute une mesure, il l'avait vue deux fois seule. Une fois au milieu et une fois que la mesure était terminée à la fin pour dire au revoir. Et d'ailleurs, ils sont allés lui dire « On est très inquiet que tu vives avec ta maman, on va faire une demande à la juge pour plus que tu la vois. » Voilà ce qu'ils lui ont dit pendant le dernier rendez-vous. Donc, rebelote les états, le trauma de ma fille, les angoisses. Tous les jours, maman, Eva me disait « Mais maman, la juge, elle va venir me prendre. » On a vécu des passages très, très, très douloureux. Et là, le nouveau service social, donc depuis le mois de juin, il est en charge de la mesure. Et en fait, il n'y a pas de rendez-vous avec les parents. Il y en a quelques-uns ponctuellement, mais c'est des rendez-vous avec l'enfant. Ils font des jeux ensemble. Voilà, donc... Ma fille a créé des liens importants avec l'éducatrice. Enfin, elle l'apprécie beaucoup et il y a du jeu avec elle. Et au début, pendant les appels, elle était complètement dissociée. Elle ne montrait rien avec son père. Elle était souriante, etc. Et là, petit à petit, maintenant, trois fois, on m'a appelée. On m'a dit on annule l'appel. On me disait de revenir la chercher, que ce n'était pas possible. Et en fait, je récupérais ma fille en larmes à dire « Maman, maman, maman » en boucle, comme... traumatisée en fait. Juste l'idée d'appeler son papa lui faisait ça et donc le service a arrêté les appels. Donc là, ça fait deux mois qu'elle a plus de lien du tout et là elle est encore plus transformée. Donc il n'y a plus les appels, donc il n'y a plus les pipis au lit, les moments où il y a les reviviscences du trauma qui remontent. Là, on est dans notre quotidien. De temps à autre, il y a des petits épisodes où elle m'en reparle, elle a peur qu'ils reviennent la chercher à l'école ou des choses comme ça, mais c'est très ponctuel et elle a une vie de petite fille, d'insouciance, elle a créé des liens importants avec ses camarades, enfin voilà, on revit enfin. Et c'est ce qui me permet aussi de me reprojeter, je vais pouvoir reprendre le travail, je reconstruis toute ma vie parce qu'on peut se construire, parce que là on est bien. On est bien, mais... On attend encore que qu'un jugement définitif vienne acter le fait que son père n'a pas le droit de l'avoir sans surveillance. Parce que là, moi, j'encours un an de prison, une indemnisation au père parce que je ne respecte pas le dernier jugement.
C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, par rapport à la décision de justice, tu n'es pas dans les clous. Je précise qu'on enregistre le 5 décembre 2023. Peut-être qu'il y aura, d'ici la diffusion, il y aura un dénouement favorable, en tout cas une évolution favorable à cette situation. Ça fait beaucoup.
Oui. Oui, et puis j'ai essayé d'être synthétique parce qu'il y a eu plein d'audiences qui sont passées dont je n'ai pas parlé. Et à chaque fois, ce sont des moments difficiles à chaque fois.
Merci pour ton histoire. Avant de clôturer cette série d'épisodes, quand tu regardes tout ça, après notre échange, si tu avais la possibilité d'aller voir Pauline d'il y a 5 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais ?
Je la coacherais pour qu'elle apprenne à s'aimer elle-même, de sorte à ce qu'elle ne soit plus facilement manipulable et qu'elle ne tombe pas sous l'emprise de personnes violentes. Tout part de là, en fait. Là, aujourd'hui, moi, je suis réparée, j'ai fait la psychothérapie nécessaire pour réparer les failles de l'enfance, ce qui fait qu'on va facilement me faire du chantage affectif. Aujourd'hui, je sais que je, je suis plus une proie idéale pour ce type de profil. Mais à l'époque, le problème, c'est que j'étais complètement la proie idéale. Et d'autant plus idéale, pas seulement parce que j'ai de l'empathie et que je connais déjà la violence et c'était presque normal pour moi, mais aussi parce que j'ai pas les apparences de la femme victime. Et ça a été idéal pour le père de ma fille et l'homme avec qui j'étais ensuite. Toutes les personnes qui ont appris ça, qui connaissaient pas l'intimité, disaient « Non, mais elle est trop intelligente. » C'est la réaction. Comme s'il fallait être bête pour être violentée, alors que...
Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Aucun lien. Aussi parce que je suis quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui est assez fonceuse. J'ai une personnalité, je dirais, plutôt forte. Et du coup, on n'imagine pas quelqu'un d'affirmé, de manière générale, être soumise à son compagnon. C'est pas concevable.
J'ai une autre question. À ton avis, que viendrait te dire la Pauline de dans 5 ans ?
Je pense bravo d'avoir tenu le coup et d'avoir protégé coûte que coûte ma fille. Heureusement. Parce que c'est dur, hein, on peut hésiter à le faire. Vu les enjeux, vu les risques, vu les menaces implicites de tierces personnes et du père. Donc je suis contente de faire partie des parents protecteurs. J'ai vu les chiffres qui sont tombés il y a peu de temps. Je crois que c'est une étude de face à l'inceste qui explique qu'il y a seulement 27% des parents qui vont protéger un enfant après des révélations. Moi, je suis fière de faire partie de cette proportion-là.
Et il y a une dernière question qui m'est venue et qui, moi-même, donne entre mal à la tête et mal au cœur. Mais quand tu regardes... je vais peut-être me faire pleurer moi-même, mais quand tu regardes tout l'amour que tu as pour ta fille et tout ce que vous traversez, tout ce qu'elle traverse, si c'était à refaire.
Ah bah, évidemment, si... même s'il faut que j'aille en prison, pour elle, je le ferais. Tant qu'elle, elle grandit bien, c'est...
Mais si tu savais ce qu'elle va traverser, tu referais... Imaginons que tu puisses savoir ce qui va se passer avant d'être enceinte.
Ah, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre, parce que évidemment que je n'ai pas envie de traverser tout ça, mais évidemment que c'est inconcevable pour moi de ne pas la voir, elle. Donc je la ferai, par contre, je me comporterai complètement différemment derrière. Je saurai quoi faire pour ne pas traverser tout ça. Donc oui, j'irai prendre la graine et puis, puis ensuite je ferai les choses autrement.
Ok. Donc merci beaucoup Pauline pour cet échange, merci pour cette histoire. Et on ne manquera pas de continuer de la suivre avec un grand intérêt.
Merci à toi.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.